Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous, ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Dans ce numéro de ce lundi 23 septembre, nous parlons des compétitions interclubs africains et le mondial de futsal. Avec nous, comme d'habitude, Élisée Mkwatin depuis Bouikon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Oui, bonsoir Yacouba et bienvenue au Bénin.
Merci. Amine Birouk est en direct depuis Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bienvenue au Maroc.
Nous retrouvons Amdine Sy à Columbus dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
On espère retrouver Jules Valentin Ngoué d'ici là, depuis Libreville. Merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. On connaît les qualifiés pour la phase de poule des compétitions africaines des clubs. En Ligue des Champions, Élisée, je commence par vous. Qualification historique des Maliens de Djoliba, 21-0 à Lomé, des Togolais de Lasco de Kara.
Oui, les Togolais qui étaient déjà battus à l'aller à Bamako 1-0 devaient refaire leur retard et pourquoi pas passer devant et espérer ne pas encaisser un but puisque la règle du but marqué à l'extérieur continue toujours de sévir sur le continent africain. Dommage, il y a une faute. Et présence des supporters togolais qui étaient au stade pour afin de d'accompagner leur club, mais cela n'a pas suffi. Les Maliens ont résisté, ils ont même à un moment donné dominé le match avant d'inscrire ce but assassin qui a quand même mis à terre complètement les Togolais de Lasco du Kara. Vous imaginez ce club qui domine depuis plus de 5 ans le championnat togolais, en tout cas les deux clubs du Kara, puisqu'il y a Asco, il y a aussi la SCK. C'est deux clubs de Kara qui dominent le championnat togolais. Donc, ce n'est pas évident de voir deux clubs de la même ville dominer un football dans un pays. Mais Lasco et la SPK le font. Donc, Lasco qui n'a pas pu passer cette étape, puisque depuis près de 3 saisons, l'objectif était clair, c'est de se qualifier pour la phase de poule. Une phase encore, et les Togolais échouent à la porte de cette phase de poule.
Il faudra encore travailler en plus. Amine, ça passe pour les Marocains du Raja de Casablanca, mais aussi pour les militaires de l'ASFAR de Rabat.
Je commence par les militaires de l'ASFAR de Rabat qui étaient absents de la phase de groupe de la Champions League depuis 17 ans. L'année dernière, ils avaient succombé à l'ultime obstacle contre les poids sportifs du Sahel. Cette fois-ci, ils ont su rectifier le tir face aux Soudanais d'El Merreikh. Et après un match nul compliqué à Jouba au Soudan du Sud, de but partout, ils ont pris le match par le bon bout, l'emportant 2-0. Un but par mi-temps et surtout une belle impression de maîtrise, contrairement par exemple au tour précédent face aux Nigériens de Remo Stars. Quant au Raja, la hiérarchie a été respectée. Le Raja qui n'a pas encore pu qualifier de ses nouvelles recrues et qui s'est contenté de gérer quasiment avec l'effectif de la saison dernière. Une victoire 2-0. Sans appel face aux gagnants de Samartex, un club néophyte à ce stade de la compétition. Le Maroc aura donc 2 représentants, mais ce seront des outsiders dans cette phase de groupe, puisque le Raja sera dans le pot numéro 2, tandis que l'ASFAR, eu égard à son manque de résultats lors des dernières années dans les compétitions africaines, sera loti dans le chapeau numéro 3. Autant dire que vaut mieux partir masqué dans la position d'outsider ou de trouble fait que d'avoir la pression des favoris qui seront dans le chapeau numéro 1, LLI, Mamelodi Sundowns, l'Espérance de Tunis et le TP Mazembe.
Bien évidemment, une première aussi pour les Angolais de Sagrada Esperanza qui ont sorti donc les Nigériens des Nouveaux Rangers, de même que le stade d'Abidjan malgré sa défaite 2-1 face aux Guinéens de Milieu FC. En revanche, ça ne passe pas pour l'autre club ivoirien, le FC San Pedro, battu 1-0 par les Soudanais d'Al Hilal. Les favoris sont au rendez-vous. Amdine Sy, comme il fallait s'y attendre bien sûr, le tenant du titre Al Ahly du Caire est en phase de poule.
Ah, tout à fait. Al-Ahli, tenant du titre et détenteur du record de victoire dans cette compétition, s'est qualifié sans difficulté. Ça, on le prévoyait. Donc, on aura beaucoup de grosses cylindrées dans ces phases de poule, puisque si on regarde les 16 qualifiés, on retrouve, comme vous l'avez dit, Al-Ahli et d'Égypte. Il y a également Pyramide, comme Amine l'a dit tout à l'heure, il y aura les formations marocaines, mais également des formations de l'Algérie, des formations algériennes. Mamelodi Sundowns et Orlando Pirates seront aussi du rendez-vous. Donc, on peut s'attendre vraiment à des phases de poule très relevées, Yacouba, pour cette année des champions.
Bien évidemment, on reviendra sur les clubs représentant les différentes formations dans cette Ligue des champions. Les deux clubs sud-africains, vous le disiez, aussi avec la qualification de Mamelodi Sundowns et de Orlando Pirates, tout comme, bien sûr, de Mamelodi Pirates. Alors, Jules Valentin Ngoué nous a rejoint depuis Libreville. Jules, bonsoir. On aura aussi deux représentants de la République démocratique du Congo, le tout-puissant Mazembe et Maniema Union, qui a écarté les Angolais du Pétro de Luanda.
Oui, bien sûr. Si le tout-puissant Mazembe était attendu, et dans la mesure où il a gagné le match aller, et que c'est quand même une équipe qui se prépare à faire des longs parcours et qui a le profil qu'il faut pour arriver dans le carré d'as. Par contre, l'équipe de la deuxième équipe, celle de Maniema, Maniema Union a eu vraiment, pour le dire, a réalisé carrément le jackpot. Mais pourquoi? Parce que on dit souvent qu'un train en cache toujours un autre. On s'attendait à avoir l'équipe de Petro de Luanda, et disons qu'à la classe supérieure, mais les voisins d'à côté, dans ce derby de la SADC, ont joué le même tour à peu près que le Mazembe avait joué à la formation de Luanda l'année passée, c'est-à-dire le Petro fait le jeu. Petro est supérieur peut-être dans la possession et également dans la qualité collective du jeu, mais gère très mal certaines périodes de la rencontre, notamment les fins de partie. On a vu par exemple qu'au match aller, ils ont ouvert le score, mais ils se sont laissés coiffer et, au dernier moment par l'adversaire du jour. Ils ont marqué donc à l'extérieur, leur suffisait seulement de mettre un seul but sans en encaisser pour passer. Et là, ils ont trouvé un roc devant eux finalement. Et l'équipe congolaise a réalisé réellement ce qu'on peut appeler le jackpot. Donc, on aura donc deux équipes de la RDC et en groupe, et ce qui montre la vitalité de ce football qui est quand même arrivé en demi-finale de la dernière CAN. Et un retour au haut de la hiérarchie africaine. Et ce n'est qu'une bonne nouvelle de plus pour l'Afrique centrale qui manque de leaders ces dernières années.
Bien évidemment, on y reviendra. Alors, Élisée, Petro de Luanda out, c'est quand même une surprise, hein?
Bien évidemment, une surprise, puisque ce club a commencé, hein, qui a énormément de moyens, il faut le dire, puisque c'est un club dirigé par la société pétrolière angolaise, hein, et qui commence à être fréquent dans cette compétition et qui naturellement a progressé avec ses joueurs et se fait éliminer par le club de Kindu, Maniema Union. Vous imaginez, c'est quand même une déception et le Petro qui pensait quand même en refaire ce retard, puisque à l'aller, vous le savez très bien, eh bien, Maniema l'avait emporté sur la marque de 2-1. On pensait que bon voilà, et les Angolais avaient déjà fait le plus difficile en inscrivant le but à l'extérieur et pouvaient passer facilement, connaissant leur expérience, leur vécu dans cette compétition. Mais au match retour, c'est la grande déception, puisque le Petro a été contraint au nul blanc 0-0 à domicile à Luanda. Une grosse déception, mais ça arrive souvent à chaque compétition des clubs, à chaque compétition, j'allais dire, il y a souvent des surprises, et le Petro de Luanda est victime de cette surprise et reviendra encore plus fort. L'autre déception, c'est que la formule a changé, sinon avant, eh bien, les repêcher, les éliminer et de ce second tour pouvaient être repêchés pour jouer le tour de cadrage et afin de valider leur ticket pour la Coupe CAF, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, c'est une élimination définitive. Donc, c'est une grosse déception. Le Petro de Luanda, d'ailleurs, aucun club angolais ne sera qualifié pour la Ligue des Champions, la phase de poule de la Ligue des Champions de cette année, de cette saison 2024-2025.
On note aussi la présence des Algériens du Mouloudia et du CRB Louisda, tombèrent au tir au but des Burkinabés de l'AS Douala. Alors, Amdinsi, finaliste la saison passée, l'Espérance de Tunis a annoncé les couleurs, en tout cas en écrasant les Somaliens de Deke Daha, j'y arrive, 8-0.
Oui, l'Espérance de Tunis a confirmé son statut de grand d'Afrique, parce qu'ils avaient non seulement fait quand même le boulot lors du match aller, mais pour ce match retour, il fallait marquer les esprits et ils l'ont fait de fort belle manière, hein, en écrasant cette équipe. Cela n'est qu'un signal
très fort rang pour dire aux autres adversaires, attention, c'est vrai qu'on a perdu la finale des Indiens, mais cette fois-ci, on va revenir très fort, et c'est ce qu'ils ont fait. En tout cas, il faut compter sur cette équipe de l'Espérance de Tunis cette année, car ils ont démontré que c'est une belle équipe, très efficace devant le but Yacouba.
Et comme d'habitude, l'Égypte, le Maroc, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo et l'Algérie seront représentés par deux clubs chacun. L'Égypte, nation la plus titrée hein, au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, donc la CAN, est aussi la meilleure nation au palmarès des clubs. Al Ahly compte 12 titres, dont 4 sur les 5 dernières années, pendant que Pyramide FC est à la recherche de son premier sacre africain. Alors, Jules, c'est pratiquement un règne sans partage pour les clubs égyptiens, notamment pour Al Ahly.
Oui, pour le moment, c'est le cas de le dire. Mais il faut dire que ça ne se passe pas aussi facilement. Et moi, je pourrais plutôt congratuler toute l'Afrique du Nord qui nous présente des championnats et assez proches des modèles des pays et de grand football. Et donc, leur présence, la présence de ces clubs-là au haut du tableau n'est pas une surprise. Et l'Égypte étant pour le moment le grand animateur de cette Ligue des champions. Mais nous avons aussi des places fortes qui apparaissent un peu partout en Afrique du Sud. Une place forte, nous avons la Tanzanie où on voit les Lions africains qui viennent vraiment, qui mettent pratiquement de côté le Simba, qu'on prenait pour une des grandes terreurs du continent. Et nous avons le Al Hilal qui est toujours là malgré la situation qu'on connaît dans ce pays. Et nous avons l'Afrique de l'Ouest qui commence à revenir. Je vois pointer déjà certains clubs qui avaient disparu et qui, à partir de la dynamique qui est lancée dans les pays d'Afrique de l'Ouest où la formation est de plus en plus développée, on commence à voir certaines formations comme le stade d'Abidjan revenir. Ou alors le Djoliba,
c'est
bon, du Mali. Oui, du Mali. Et donc, finalement, c'est intéressant et sur le plan financier et ça va pousser, faire et créer une certaine émulation pour que tout le monde se mette au pas.
On espère bien que tout le monde va se mettre au pas. En attendant, Amine Birouk, direction donc Casablanca. Le Maroc a deux représentants, vous en parliez tout à l'heure, le Raja Casablanca et l'AS Fas. Vous parliez bien sûr du Raja qui va en sous-marin, c'est peut-être le meilleur statut possible pour le Raja, en espérant surprendre.
En espérant surprendre et en attendant de qualifier ses nouvelles recrues, parce que le Raja a perdu quelques éléments. Il a compensé à l'intersaison, mais il a fallu bien évidemment reconstruire une partie de l'équipe. Les problèmes financiers, les litiges avec la FIFA ont obligé le Raja à décaler la qualification de ses joueurs et donc à faire avec les éléments qui existait la saison dernière ou qui était inscrit la saison dernière. Donc on verra. Mais c'est vrai qu'il y a un autre handicap, c'est la fermeture du complexe Mohamed V jusqu'au mois de janvier prochain. Ce sont des stades qui sont en train de connaître un listing pour la prochaine CAN. Et donc le club est obligé de recevoir dans un stade de 10 000 à 12 000 places. L'impact du public est important. Tout dépendra maintenant du tirage. Le Raja est dans le chapeau numéro 2. Il partira, comme vous le dites, en sous-marin. Et attention, une équipe du Raja sans pression, avec le soutien du public, même s'il est bien moindre, est capable des exploits. L'ADN de la compétition continentale, c'est la 10e participation du Raja en Champions League. C'est un chiffre qui compte au moment d'aller disputer des rencontres couperées face aux Grandes d'Afrique, notamment aux 4 grands qui se trouvent dans le chapeau numéro 1.
Alors, Élisée, bien sûr, parmi les Grandes d'Afrique, on a Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, mais aussi Orlando Pirates, cette fois-ci en Ligue des Champions, cette année, deux clubs sud-africains sur lesquels il faut aussi compter.
Oui, qui ont déjà remporté au moins une fois le trophée. Le premier d'ailleurs en 1995, les Orlando, les Buccaneers comme on les appelle, c'est l'équipe de Soweto. Et puis après, les Mamelodi Sundowns qui ont longtemps dominé le football africain des clubs, vous imaginez. Donc c'est pratiquement deux clubs qui on peut dire favoris hein, dans cette compétition, même si Orlando Pirates doit revoir son statut. En tout cas, l'Afrique du Sud se présente comme un sérieux prétendant hein, pour remporter le titre final, même si encore il y a le national Al Ahly du Caire, l'Espérance de Tunis qui revient, surtout avec sa nouvelle recrue, l'international algérien Youssef Belaïli, qu'on connaît très bien, et qui était l'un des artisans de la CAN remportée par l'Algérie, c'était en Égypte, donc Il faut dire que les Maghrébins ou bien les clubs venus de l'Afrique du Nord sont fortement représentés, donc il faudra compter sur eux. Mais attention, il y a toujours l'éternel Mamelodi Sundowns qui, même malgré le départ de son entraîneur qui est allé coacher le Wydad de Casablanca, ça reste toujours un club qu'il faut prendre au sérieux. Encore que Al Ahly a souvent des difficultés à battre les Mamelodi Sundowns. Donc, en tout cas, comme je l'ai dit, les deux clubs sud-africains, il faut les prendre au sérieux.
Justement, je reviens à vous, Jules. On parlait tout à l'heure du tout-puissant Mazembe, mais aussi de Maniema Union. Hein, Maniema Union qui a surpris en écartant les Angolais de Petro. Mazembe a eu son temps de gloire sur le continent. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un retour peut-être définitif dans l'élite?
Mais bien sûr. On ne peut même pas dire un retour dans l'élite.
Ils ont eu quand même des moments de difficulté. Oui, ils ont eu des moments de difficulté. Oui.
Ils ont eu des difficultés, mais sinon que l'équipe a quand même un soubassement qui est assez solide pour cela. D'abord, un soutien populaire est vraiment incomparable quand on voit ce qui se passe ailleurs, en Afrique, surtout subsaharienne, la vie des stades vides. Mazembe a un soutien populaire, il y a des mécènes, il y a donc une dynamique régionale et également une expertise au niveau de l'encadrement. Le plus souvent, ils ne balaient pas les entraîneurs comme les autres. Ils travaillent sur le long, le court et le moyen terme, c'est-à-dire selon les circonstances et selon les priorités. Donc, je crois que c'est un exemple à suivre. On a vu les filles aussi de Mazembe qui sont sorties de l'ombre. On a investi aussi sur ce plan-là. Et finalement, c'est une dynamique rationnelle qui s'est mise en place. Et je crois qu'il faudra toujours penser à Mazembe quand l'odeur des titres va commencer à s'approcher.
Bien évidemment, comment ne pas y revenir avec Jules Valentin Ngoué. On a toujours des expressions, l'odeur des titres. Les 16 qualifiés pour la Coupe d'Afrique, la Coupe de la Confédération sont aussi connus. Alors Amdine Sy, vainqueur facile, hein, 3-0 du Racing Club d'Abidjan. Diaraf intègre le club des 16.
Oui, vous avez raison. Il faut dire que c'est très rare de voir les clubs sénégalais se qualifier au niveau des phases de groupe, que ce soit en Ligue des Champions ou en Coupe de la CAF. C'est pourquoi il faut applaudir dès demain. Pour revenir à la qualification du Diaraf, il faut dire que ça a été une qualification de fort belle manière, puisque le Diaraf, qui avait ramené un bon nul d'Abidjan, a battu quand même cette équipe par 3-0. Les Verts-Blancs ont entamé quand même cette rencontre en ouvrant le score très tôt par l'intermédiaire de Alma Mitou à la 6e minute. Et Souleymane Cissé a doublé la mise en transformant un penalty à la 42e minute. 2-0 après 2-0 durant la première période. On pouvait dire que l'écart était cuit pour les Ivoiriens. Et cela a été le cas puisque le capitaine Rémi François Bokandé va marquer carrément le but du KO à la 85e minute sur un autre penalty. Il faut dire qu'avec cette qualification, c'est le draft de trois, la phase de poule, puisque il y avait trois ans, plus précisément en 2021, le draft avait réussi à se qualifier au niveau des phases de poule. Le draft avait même réussi à aller jusqu'en quart de finale, mais malheureusement, l'aventure s'était arrêtée en quart de finale, battue par le coton de Garoua après un match qui y avait des incidents, il y a eu même des suspensions. Donc cette année, le Diaraf retrouve quand même la phase de poule. Je pense que c'est très important pour le football sénégalais qui n'arrive pas à sortir quand même la tête de l'eau au niveau des compétitions africaines. Mais on va voir après l'élimination de Tunis FC, et cette qualification a été acquise malgré la suspension de leur buteur patenté Souleymane Cissé, qui avait marqué 3 buts lors du premier tour préliminaire, mais qui a été pris de carton rouge. Cela veut dire que tout simplement, le Diaraf a des arguments. Maintenant, il faut le prouver sur le terrain lors de cette phase de groupe. Yacouba.
Le Diaraf a des arguments. Berkane en a aussi. Berkane qui a été sans pitié à Midbirouk devant Dadier FC du Bénin.
C'était une promenade de santé et le score en atteste, 5-0, après le 2-0 endossé au club béninois à l'aller en déplacement, 5-0, 3 buts en première mi-temps, 2 en seconde mi-temps et une simple formalité pour une équipe qui vise la passe de 3. Elle a déjà gagné 2 finales, en a perdu 2, notamment celle de l'année dernière face aux Zamalek. Elle est outillée pour disputer la Ligue des Champions, qui est une aspiration du club cher au président de la Fédération royale marocaine de football. Et aujourd'hui, avec les quelques renforts qui ont été effectués, avec l'ADN du club et l'expérience du coach tunisien Moïn Chabani, Berkane a de beaux arguments devant elle, à condition de bien négocier la phase de groupe et les matchs couperés à partir des quarts de finale.
Voilà, et donc Berkane qui a été sans pitié, je le disais, Élisée, la marche était quand même trop haute pour les Béninois. Il faut le reconnaître.
Oui, trop, il faut le dire. Et vous avez raison, eh bien, le plus important était déjà de passer la première étape, puisqu'on le savait déjà quand le tirage du sort a été effectué, le vainqueur du match entre Nadjer et El Kameni devrait affronter le finaliste de la saison dernière. On s'est dit, bon voilà, on va affronter un gros morceau, mais il faudra faire d'abord avec les Nigérians. C'est chose faite, on a écarté le géant de l'Est, notre voisin de l'Est. C'était déjà une première étape réussie, puisque même le champion en titre qui a remporté 3 fois le championnat au Bénin, et Coton FC de Ouida, n'a pas pu passer la première étape, cette première étape depuis 3 ans. Donc c'est déjà une campagne africaine réussie pour l'équipe d'Aplaroué qui fait frontière avec le Togo. Nadjer en a pris à ses dépens. C'est une expérience de plus. Il faudra travailler très fort afin de revenir la saison prochaine.
Qualification pour les Algériens du CS Constantine, des Tunisiens du club sportif Sfaxien, des Tanzaniens du Simbaye du stade malien de Bamako, qui n'a pas tremblé devant les Libériens de Painesville. Alors, Jules, on parlait justement du tout-puissant Mazembe et de Maniema Union qui ont réussi en Ligue des Champions à intégrer donc la phase de groupe. Par contre, en Coupe CAF, l'AS Vita Club de Kinshasa, mais aussi Saint-Éloi Loupopo, out.
Oui, c'est le turnover pratiquement qui se passe là-bas. Et donc, c'est également la preuve qu'il n'y a pas de titre foncier pour les distinctions nationales. Donc, automatiquement, il faut toujours rester en compétition. Il faut prouver tout le temps qu'on est réellement le leader. Et quand il y a ce turnover-là, c'est aussi une preuve de vitalité. Je crois que ceux qui sont éliminés prendront leurs moyens pour revenir au premier plan l'année prochaine.
On espère bien. Les Ivoiriens de la SEC d'Abidjan seront, eux, en phase de groupe. Les Mimo ont renversé les Togolais de l'ASK qui les avaient battus à l'aller. Les Nigériens de Nimbaï seront aussi, après leur succès contre les Burkinabés de l'étoile filante de Ouagadougou. J'en parlais en titre. Eh bien, nous parlons à présent du mondial de futsal qui se joue en Ouzbékistan. Amin Birouk, l'Afrique comptait 3 représentants dans cette compétition, le Maroc, l'Angola et la Libye. Il n'en reste plus qu'un.
Il n'en reste plus qu'un. Et est-ce qu'il est bien fringant après sa défaite 4-1 face au Portugal? Il s'agit du Maroc, triple champion d'Afrique, quart de finaliste il y a 3 ans en Lituanie et qui est arrivé en Ouzbékistan avec des aspirations. Mais visiblement, les blessures, peut-être le surentraînement, ont miné un peu le moral de l'équipe entraînée par Hicham Zdik. Maintenant, tout dépendra jeudi d'un match couperé face à l'Iran en 8e de finale à partir de 12h30 en temps universel. Elle décidera. Ce match couperé décidera de la qualification du Maroc en quart de finale. Il déterminera si la participation des Lions d'Atlas aura été bénéfique ou bien un simple fiasco. Du côté de l'Angola, c'est 3 défaites en 3 matchs et de nombreux points d'interrogation pour les vice-champions d'Afrique. Quant à la Libye, sa première victoire face à la Nouvelle-Zélande augurait d'une belle participation, mais visiblement, 2 lourdes défaites, et notamment devant l'Espagne avec 8 buts d'écart, ont éliminé les Libyens qui auraient pu passer en tant que meilleur 3e, mais ils sont en phase d'apprentissage. Le futsal africain a des lacunes, il a un retard à combler par rapport à l'Europe et à l'Asie centrale, et l'Amérique latine, il va falloir s'y coller avec peut-être l'instauration d'une CAN tous les 2 ans au lieu de 4. La logique voudrait qu'on suive et qu'on imite le beach soccer, qui a sa CAN tous les 2 ans. On se pose des questions par rapport au programme et à l'organisation de la CAN, notamment en matière de compétition. La CAF qui n'en est pas à une contradiction près. 4 ans pour le futsal, 2 ans pour le beach soccer et de nombreux points d'interrogation par rapport à l'avenir de ce sport.
Alors, justement, Amin Birouk, très rapidement, en 30 secondes, parlant de cette équipe du Maroc, je me souviens, juste avant le match contre le Portugal, le 3e et donc lors de la 3e journée, eh bien, l'entraîneur portugais parlait d'une équipe marocaine qui fait partie des équipes les plus redoutables dans cette compétition. Est-ce que c'était du bluff, juste pour mettre la pression sur les Marocains ou sur
le VMD? Les Marocains, sur les 3 dernières années, ont battu le Brésil, l'Argentine, l'Espagne en match amical. C'est une équipe
au complet, qui est redoutable, qui est solide, mais elle a perdu en cours de route deux éléments importants avant la compétition. Elle en a perdu deux autres pendant le tournoi, et aujourd'hui, avec une simple rotation et demie, elle a plus de difficultés dans un sport qui est très intense sur le plan physique.
Merci beaucoup, Amine Bouloup. Merci à Élisée Mkpatine. Merci à Jules Valentin Nguyen, ainsi qu'à Amdine Nassis. Pour Rama s'achève ici. Présentation Yacouba Ouidraogo. À la réalisation, c'était Michel Joseph. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.